Notre espérance est en Dieu. Que chacun d'entre vous reçoive maintenant la grâce, la miséricorde et la paix. Et nous nous présentons devant ce Dieu qui nous appelle et qui nous rassemble avec le premier chant que vous trouverez dans le livret liturgique qui est au début du psautier français. Donc c'est un psaume, bénissons Dieu, le seul Seigneur. Vous pouvez vous lever pour accueillir donc ce Dieu qui nous appelle.
Éternel, je te rends grâce en ta maison. J'adore ta fidélité et ta bonté qui me consolent. Tu me réponds dès que je crie. Tu élargis mon espérance. Même les grands t'écouteront et te béniront. Ton amour à notre Dieu veille sur chacun de nous. Ta paix dure pour toujours. C'est ton amour qui me délivre. Quand je suis éprouvé, quand je suis au désespoir, c'est toi qui me relève et me fais vivre.
Merci beaucoup, Salomé. Et nous chantons à la gloire de Dieu ce psaume dont nous venons d'entendre quelques extraits, le psaume 138, les trois strophes de ce psaume que vous allez trouver dans le psautier français. Donc vous pouvez prendre place. Et puis après avoir accueilli ainsi par la louange notre Dieu, eh bien je voudrais chaleureusement souhaiter la bienvenue à chacune et chacun d'entre vous et remercier les jeunes de nous guider dans cette première partie du culte. Maintenant, c'est Diane qui va nous dire quelle est la volonté de Dieu selon l'Évangile.
Voici la voie par excellence, nous dit Paul. L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Et maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces réalités, c'est l'amour.
Maintenant, c'est Ondine qui nous guide dans la prière de repentance.
Viens, Seigneur, cherche ton serviteur. Viens, bon berger, cherche la brebis épuisée, perdue. Viens vers moi que guettent les loups. Cherche-moi, trouve-moi, accueille-moi, porte-moi. Tu peux trouver celui que tu cherches. Accueille celui que tu trouves. Place sur tes épaules celui que tu as accueilli. Viens donc, Seigneur, chercher tes brebis. Viens toi-même. Porte-moi, toi qui es le secours pour ceux qui sont perdus, toi qui es le repos des fatigués, toi qui es le réconfort des désespérés, toi qui es la source de progrès des méchants. Viens et il y aura le salut sur la terre et la joie au ciel. Viens, mon bon berger.
Merci. Et c'est Clara qui va nous dire les paroles qui annoncent le pardon, qui annoncent la grâce de Dieu sur chacun d'entre nous.
Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Aujourd'hui, cette parole, quand vous l'entendez, est accomplie. Et qu'ainsi, ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vienne ouvrir leurs yeux. Ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu, car aujourd'hui cette parole est accomplie par tous ceux qui l'entendent.
Nous chantons à Dieu notre reconnaissance. Vous pouvez vous lever si vous voulez. Et donc c'est Sacha qui va nous proposer une confession de foi qui a été faite par quelqu'un qui a été baptisé il y a quelques mois Et puis, vous êtes bien sûr pas obligé d'être d'accord avec chaque ligne, mais c'est possible, de, voilà, par l'esprit, de s'unir avec cette confession de foi.
Je crois en Dieu et à sa puissance créatrice, source de tout ce qui est beau et bon. Je crois à l'amour premier et sans condition de l'Éternel. Il révèle sa force dans ma faiblesse, face au mal, au manque et à l'absurde. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur, né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Par son évangile, il fortifie ma foi à jamais incomplète et il m'invite à vivre par la grâce tous les jours de ma vie. Je crois en l'Esprit-Saint, souffle de vie, source de renouveau, qui me tourne vers mes frères et sœurs en Christ et me laisse participer aujourd'hui au royaume de Dieu. Je crois en l'Église, elle est imparfaite, elle est seconde, toujours à réformer, mais elle m'aide à vivre et à grandir libre en tant qu'enfant de Dieu. Amen.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité.
Chers amis, les plus jeunes d'entre nous découvrent actuellement les premiers chapitres du livre de l'Exode. J'ai donc choisi que nous nous posions également sur un passage de ce livre de l'Exode ensemble ce matin. Nous nous arrêterons ainsi sur un extrait du troisième chapitre, les versets 7 à 15. Il fait suite au célèbre buisson ardent. Le Seigneur dit : J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périsite, du Hivite et du Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va, maintenant, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse dit à Dieu : Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ? Je suis avec toi, dit-il. Et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu : Voici, je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai : Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent : Quel est son nom ? Que leur dirai-je ? Dieu dit à Moïse : Je suis qui je serai. » Il dit, « Tu parleras ainsi au fils d'Israël, « Je suis, m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi au fils d'Israël, le Seigneur, Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom à jamais, c'est ainsi qu'on m'invoquera d'âge en âge. » Oui, chers amis, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur où nous sommes invités à nous poser ainsi autour de la parole, à prendre du repos, même certains employés de grandes surfaces de bricolage. Et comme c'est le jour du Seigneur, nous sommes invités à nous lever pour chanter et célébrer la toute-puissance d'amour de Dieu au cantique 177, les trois premières strophes. Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles, quand passe le vent de l'Esprit, viens encore accomplir tes merveilles aujourd'hui. Donne-nous la grâce d'une écoute libre, sans préjugés, sans interprétation hâtive et sans crainte. Donne-nous la grâce d'un regard libre et renouvelé qui ne s'arrête pas à la surface des choses. Donne-nous la grâce d'une intelligence libre, ouverte, aventureuse, capable de replacer toute chose dans un contexte plus large, sans esprit de système, sans désir de puissance. Je ne sais pas pour vous, mais moi, Je comprends Moïse. Je comprends en effet qu'il ne puisse pas totalement saisir l'événement qu'il vit, ou tout au moins en être en partie réfractaire. Je ne vous l'ai pas relu, mais quelques versets avant notre lecture, notre cher Moïse se retrouve quand même, alors qu'il s'occupe du troupeau de son beau-père, face à un ange du Seigneur qui apparaît dans une flamme de feu du milieu du buisson. Et comme si cela ne suffisait pas, le buisson était bien en feu, mais le buisson n'était pas dévoré. Et je mets au défi nos jeunes, mais aussi nos anciens éclaireurs et éclaireuses unionistes, à faire un jour un feu sans que le bois qui brûle ne soit ainsi dévoré. Bref, Moïse se retrouve face à une surnaturelle lumière qui éclaire et enflamme finalement sa vie. Comme pour nous, ce matin, cette lecture, sans nous brûler, sans nous consumer, nous entraîne peut-être vers de nouveaux chemins. En effet, force est de constater avec ces quelques versets, mais j'aurais pu aussi vous lire les versets suivants, qui pourraient relever plus de la magie ou du surnaturel, présenté dans certains cirques ou théâtres parisiens, quand le bâton devient serpent une fois jeté à terre et redevient bâton une fois repris dans la main de Moïse. Oui, avec divers passages de ce livre de l'Exode et de l'ensemble des Écritures, force est de constater que finalement, le possible de Dieu est souvent impensable pour l'homme. Rappelez-vous, dans le Premier Testament, la vieille Sarah qui se retrouve dans la situation d'avoir encore à son âge un enfant, ou encore dans les Évangiles, la situation de la jeune Marie avec sa maternité à peine fiancée, sans avoir connu son Joseph, impensable et pourtant. Que dire encore quand, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, est souligné l'impensable pour les contemporains de Jésus, et peut-être aussi pour nous-mêmes, le Fils de Dieu qui naît dans une étable et qui va aller jusqu'à mourir sur une croix, sans parler de son extraordinaire résurrection. Bref, l'impensable traverse, comme ce buisson qui brûle sans se consumer, notre Bible, et questionne les hommes, les femmes, les jeunes et moins jeunes que nous sommes. Dans notre conception humaine, à notre échelle, impensable est souvent synonyme au final d'impossible. Nous avons tellement conscience de nos limites, nous voulons être crédibles, réalistes, raisonnables, objectifs. Ainsi, nous sommes tentés d'enfermer le possible dans nos modèles, de le réduire à nos dimensions. Or, le possible ou l'impossible, ce n'est pas une question d'objectivité, c'est une question de foi. À nous plutôt d'accepter de nous laisser entraîner par Dieu. Et généralement, il nous conduit autrement que nous ne l'imaginions, dans son amour et au-delà de nos normes. Car Dieu est ailleurs, hors de nos références humaines. Il ne nous enferme pas, il nous ouvre à la vie, à la liberté, pourvu que nous nous ouvrions à lui au lieu de l'enfermer en nous. Entre Dieu et nous, pas de rapport de force ou de domination, seule la totale confiance. Oui, vraiment, pour Dieu, rien n'est impossible. Alors, si nous osions seulement la confiance. Si la confiance n'était pas qu'un slogan mis sur des badges, mais une réelle conviction pratiquée au quotidien, n'aurions-nous pas alors franchi déjà un grand pas ? À l'audace d'amour de Dieu, que nous venons d'ailleurs de rechanter, une seule réponse est donc attendue. La confiance des hommes, des femmes, en ce Dieu. Arrêtons-nous alors aujourd'hui sur cet appel de Dieu, qui devient audace, même et surtout, quand nous ne sommes pas prêts. Moïse, comme l'écrit cette Bible, ces commentaires dans cette Bible pour les jeunes, les nouveaux lecteurs de la Bible, The Bible, Moïse cherche à se défiler. La mission est trop grande, le pharaon trop puissant. Il se sent écrasé, incapable, trop ceci, pas assez cela, etc. Dieu, lui, y croit. Il argumente pour convaincre Moïse. Dieu sait mieux que nous-mêmes ce dont nous sommes capables. Non seulement il sait ce que nous pouvons être, mais il sait aussi ce que nous avons traversé et nos détresses présentes. Il entend, voit, se souvient. Dieu avait promis à Abraham des descendants et un pays, et il reste fidèle à sa promesse. Les cris de son peuple le touchent. Il répond. Il s'engage. Ainsi, Moïse, qui vaque à ses occupations quotidiennes, se retrouve avec Dieu qui vient à sa rencontre, intrigué devant un phénomène étrange. Moïse va voir. Alors, Dieu l'appelle par son nom. Une relation décisive est en train de naître, tellement forte qu'elle suscite le respect. Elle va changer la vie de Moïse et celle de son peuple. Mais voilà, dans notre passage, Moïse s'assure qu'il est quand même à la hauteur de la mission qui lui est confiée. En même temps, je ne suis pas sûr que nous ferions mieux que lui. Peut-être même pire. Nous aurions certainement tendance à prendre la poudre d'escampette à la mode d'un certain prophète appelé Jonas. Je dois faire ceci, bon, eh ben, je vais donc plutôt faire cela et partir en sens inverse. Or Dieu ne va pas par quatre chemins avec Moïse. Dans notre passage, il lui dit qu'il a entendu le peuple et qu'il va le délivrer des Égyptiens et le faire monter vers cette fameuse terre promise où le bétail pourra correctement être élevé et où l'on pourra cultiver. Ainsi, Dieu dit à Moïse, « J'ai entendu, je sais ce qu'il faut pour eux, alors à toi de te mettre maintenant au travail en allant vers le Pharaon pour sortir d'Égypte mon peuple. » Sympathique Seigneur. Il comprend, mais c'est à nous de faire le boulot en y allant. Et n'ayons pas peur des mots en allant à ce qui s'apparente pour Moïse quand même à un casse-pipe. Voilà pourquoi Moïse veut tout d'abord une légitimation. Dieu le lui la donne en lui affirmant simplement, et c'est énorme, qu'il est avec lui. Mais celui-ci ne l'entend pas. Il veut plus. Moïse veut obtenir un mandat, celui du nom de Dieu. Et là, le Seigneur persiste. Il est qui il sera. Il refuse de se soumettre à la requête formulée par Moïse, peut-être aussi parfois par nos propres requêtes. Il nous faut effectivement, nous aussi, entendre que le mandat qui nous est donné de chrétiens, c'est qu'avec chacun et chacune d'entre nous, Dieu est tel qu'il sera. Alors, si j'ose dire, à notre tour, ne passons pas à côté du buisson ardent. Laissons Dieu se faire connaître et retenons qu'à celui qui cherche à le voir, eh bien Dieu se révèle par sa parole. Et c'est après s'être fait connaître par sa parole qu'il intervient pour son peuple. Et c'est là qu'il nous faut accepter de recevoir la révélation, à sa manière, ici, du nom de Dieu. Ayez et cher ayez, nous dit le texte hébreu, ce nom qui vaut pour tous les temps et que la traduction œcuménique de la Bible que j'avais choisie traduit non pas par « je serai qui je serai », choisi par exemple dans la Nouvelle Bible Second, mais « je suis qui je serai ». Il nous faut comprendre cela non pas comme un sens futur, mais comme une action qui se poursuit, une ouverture à un futur. Nous pourrions ainsi le traduire par « je me montrerai comme celui en tant que tel je me montrerai » et la traduction œcuménique de la Bible propose dans ses notes « je suis là, avec vous, de la manière que vous verrez ». Cette révélation du nom de Dieu montre que celui-ci ne se laisse enfermer ni dans nos descriptions, ni dans nos conceptions. Il est bien au-delà de ce que nous pouvons tous en dire. Il se définit par le simple fait qu'il est. Un Dieu dont on ne décrit pas la personne, mais que l'on connaît par la façon dont il nous rejoint et nous accompagne un jour dans notre histoire. Yahweh ne se décrit pas, c'est la raison pour laquelle les images sont interdites. Il est le Créateur, il est celui qui entend la souffrance de son peuple et qui le libère, il est celui qui sauve. Et dans le livre de l'Apocalypse, Dieu est appelé l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient. Et peut-être alors que la meilleure traduction de Yahweh serait tout simplement le vivant. Car Dieu révèle à Moïse, non pas son nom, mais qu'il est l'existant. La nature de Dieu est d'être et non d'être dite. C'est pourquoi n'oublions jamais ce vivant qui est avec chacun, chacune d'entre nous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation de vie, dans nos joies comme dans nos peines. C'est ce vivant dont nous devons être les témoins en confiance, dans notre engagement d'Église, de croyants, dans la société, dans ce monde dans lequel nous vivons. Les quelques versets d'Exode 3 que nous avons donc lus sur le nom divin peuvent paraître énigmatiques. Ils nous disent de Dieu une réalité décisive. Le Dieu en qui nous nous confions, celui-là même que Jésus priait et servait, est un Dieu qui se définit par les liens qu'il noue avec ses créatures. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des pères. Il est le Dieu qui appelle Moïse à son service, s'engage dans une alliance avec le peuple d'Israël. Et la forme verbale dont il use pour se désigner évoque son engagement dans l'histoire. Dans l'histoire du peuple, dans l'histoire du monde, dans notre histoire personnelle, dans celle de la création tout entière, pour faire triompher son projet d'amour. Son nom reste mystérieux et indicible, et pourtant il fut, il est, et il sera un Dieu avec nous. C'est pourquoi, entre la question « quel est ton nom ?» et c'est mon nom à jamais, Dieu se présente sous deux aspects. Celui dont la présence active est ouverte vers un avenir, je suis qui je serai, et celui qui se rattache au Père des origines, un Dieu de l'histoire passée comme de l'histoire à venir, qui se rend toujours proche de son peuple. Le nom donné est ainsi mémoire pour tous les âges. En refusant de donner véritablement un nom, Dieu se place dans un refus d'être considéré comme une idole. En effet, lorsque nous ouvrons la Bible pour lui poser cette question première, « Qu'est-ce que Dieu ?» ou « Qui est Dieu ?», est bien le plus difficile, et finalement de faire abstraction de toutes les images préconçues que nous en avons. Le mot « Dieu » n'est pas neutre. Et avant d'écouter l'Écriture, nous avons souvent en tête l'idée d'un esprit doté d'un certain nombre d'attributs. L'omniscience, celui qui sait tout. L'omniprésence, celui qui est partout à la fois. L'omnipotence, celui qui peut tout. L'impassibilité, celui qui n'a pas de sentiments. L'immuabilité, celui qui ne change pas. Et mécaniquement, nous dotons le Dieu biblique de tous ses attributs. Cela est, je le crains, le plus sûr moyen de passer à côté du Dieu de l'Écriture. Nous pourrions certes picorer à droite et à gauche des versets qui justifieraient chacun de ses attributs, mais nous raterions le cœur de la révélation biblique. L'Écriture, en effet, nous présente toujours et encore un Dieu de relation, un Dieu qui s'engage dans l'aventure de l'humanité, un Dieu qui fait alliance avec les hommes. Et en enfermant Dieu dans nos propres images, nous ne laissons pas Dieu devenir lui-même. En effet, que ce soit avec Dieu ou aussi avec nos prochains, il n'est pas possible d'avoir de relations justes, saines et équilibrées si nous ne laissons pas à l'autre cette possibilité d'être lui-même. S'imaginer l'autre tel que nous voudrions qu'il soit, au lieu de lui laisser sa liberté d'être ce qu'il est, ne peut conduire qu'au malentendu et finalement à la déception. Alors, nous pouvons conclure sur ce passage de l'appel de Moïse que l'actualité des thèmes de l'Exode est multiple. L'esclavage du peuple en Égypte, ses plaintes, son attente de la libération, on sait l'écho de tout cela dans tant de situations d'oppression encore aujourd'hui. L'esclavage n'est pas seulement celui dont sont victimes des populations affamées, exploitées et torturées qui meurent aujourd'hui aussi en voulant fuir leurs conditions. Il peut aussi revêtir des formes plus sournoises et bien présentes dans nos sociétés démocratiques. Le projet de Dieu est de nous conduire de cet esclavage à la liberté, de le servir. La liberté véritable n'est pas la simple absence de contraintes, mais la possibilité d'établir des relations nouvelles avec les autres. Quel est ce Dieu qui libère ? L'interrogation de Moïse est peut-être aussi la nôtre. La réponse de Dieu, toujours aussi décisive. Il est celui qui s'est allié au Père, celui qui s'engage dans la libération des siens, et cela jusqu'à venir en son Fils partager notre détresse. Nous ne sommes pas Moïse. Sa vocation a un caractère exceptionnel, comme celle des quelques autres personnages bibliques. Toutefois, Dieu nous appelle, nous aussi, les uns et les autres, à son service. À chacun, il promet sa force pour que nous puissions lui être fidèles. La vie chrétienne ne se construit pas à la force des poignets, elle se reçoit comme une grâce, un cadeau qui nous est fait. Oui, écoutons, Dieu nous parle et nous ouvre notre route vers lui, à son service et vers nous-mêmes. La réponse à l'appel à la grâce qui nous est faite a autant une résonance interne qu'externe, et nous restons trop souvent focalisés sur cette conséquence externe ou à l'apparence de nos vies, alors que de ce buisson ardent naît une surnaturelle lumière qui éclaire et enflamme nos vies, nos cœurs, sans les brûler, sans les consumer, mais nous entraînant vers de nouveaux chemins. Cette vivifiante lumière qui crépite enluminure dorée, annonciatrice d'une parole. Il ne s'agit pas d'une parole éphémère qui disparaît comme de la fumée. C'est bien une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour toi qui es là et le monde, dès maintenant et à jamais. Toi qui es devant cette lumière, ce feu, écoute surtout la parole qui en surgit. Toi aussi, tu es envoyé vers les autres, ceux qui sont là, autour de toi. Ose la rencontre, ose l'écoute, ose être déplacé avec ceux qui t'entourent par cette parole vivifiante, cette parole aimante. Intéresse-toi, comme Moïse, à ce troublant feu qui jaillit de la parole. Découvre-y dans ta vie la présence de Dieu. Dieu est celui de la rencontre. Il est celui qui t'appelle, il est celui qui t'envoie, il est celui qui est, reste et demeure avec toi, en relation. Écoute, Dieu te parle. Écoute, toi qui as aussi entendu les cris du peuple. Il t'est même donné de le guérir de ses maux. Guérir. Le mot est fort. C'est parce qu'un autre t'invite à lui faire confiance, à te laisser surprendre par l'impensable qu'il rend possible. Oui, nourris-toi de cette lumière qu'est la parole divine pour devenir à ton tour ce que tu es. Un enfant, une femme, un homme aimé de Dieu, guidé par sa lumière, envoyé dans le monde avec le Dieu vivant, l'Emmanuel, ce Dieu avec toi. Amen.
Le cantique 246, les strophes 1, 5 et 6 en réponse à un appel qui retentit pour nous. Nous pouvons prendre place et partager quelques informations. Tout d'abord, vous donner le déroulement de notre journée. Les catéchumènes, juste après le culte, vous irez avec David, salle haute, pour aider les enfants de l'école biblique à préparer la fête de Noël. Donc, vous sortirez par ici aussitôt la bénédiction donnée, mais ne partez pas sans la bénédiction. Quant aux lycéens, c'est aussi le jour de leur groupe. Ils se retrouveront dans la salle jeunesse aux 4 rues de l'Oratoire, juste en face. C'est aussi le premier dimanche du mois. C'est donc le dimanche consacré au repas paroissial. Si vous n'avez pas eu l'occasion de vous inscrire, il y a encore possibilité pour vous de participer à ce repas. Un repas qui est donné salle mono, c'est la salle qui est au deuxième étage, en face, aux 4 rues de l'Oratoire également. Avant de redonner la parole au pasteur Marc Schaeffer, secrétaire national des réseaux jeunesse de l'Église protestante unie, que je salue, que je remercie, qui est aussi paroissien de l'Oratoire, au demeurant, ce qui n'est pas la moindre de ses qualités. Je vous donne quelques informations dans notre agenda. Demain, lundi, à 20h, c'est le début de l'approfondissement théologique. Cette année, nous nous consacrons aux théologiens du XXe siècle, et nous commencerons par ce théologien dont le pape disait qu'il était le plus grand théologien du XXe siècle, ce qui faisait dire à Karl Barth, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qu'il allait peut-être commencer à songer à croire en l'infaillibilité pontificale. Mardi, à 20h, c'est l'initiation théologique. Donc, c'est pour les personnes qui souhaitent découvrir ce qu'est la foi chrétienne dans son expression protestante, soit parce que il y a eu une grande parenthèse entre le catéchisme de l'adolescence et maintenant, soit parce qu'ils découvrent tout simplement ce qu'est la foi chrétienne. Donc, première séance mardi à 20h, et c'est toujours salle mono, vous l'aurez compris, deuxième étage du 4 rue de l'Oratoire. Mercredi, première lecture biblique œcuménique en partenariat avec Saint-Eustache, consacrée cette année au bonheur. Et mercredi, la question ce sera de s'interroger sur cette phrase « Vous serez comme des dieux ». C'est à la fois la phrase dite par le serpent dans le livre de la Genèse, et donc le texte étudié sera en Genèse 2, la fin de ce chapitre, et puis chapitre 3, les versets 1 à 20, et puis également le psaume 4. « Vous serez comme des dieux ». Ce sera également à l'oratoire. Jeudi à 19h30, c'est la répétition du chœur. Samedi, de 9h à midi, notre organiste Jean-Dominique Pasquet organise une formation régionale pour les organistes qui se tiendra ici. Peut-être que cela peut vous intéresser. Dans ce cas, prenez contact avec Jean-Dominique Pasquet. Et puis, dimanche prochain, notre culte dominical présidé par Marc Pernaud. Je redonne un instant la parole pour quelques informations de la part de notre secrétaire national.
Voilà, simplement vous dire que j'ai apporté aussi quelques nouvelles liées à l'événement de cet été qui était le Grand Kiff. Alors cet événement n'a de sens que si on l'utilise réellement comme un outil, c'est-à-dire qu'il y a un avant, il y a un pendant et il y a aussi un après. Et là, ce que je vous ai apporté, c'est notamment un écho d'une jeune de Toulouse qui spontanément, à la suite de ce rassemblement, a écrit, envoyé et partagé un peu ses réflexions. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'entendre et de donner la parole ainsi aux plus jeunes d'entre nous. Et l'autre façon aussi de donner la parole aux plus jeunes d'entre nous et qui continue de faire écho à ce qui a été vécu cet été, c'est ce spectacle qui a été créé avec la compagnie SketchUp, et dont un des membres aussi de cette communauté a donné une part active. Et je le vois ici, Jonathan, qui a travaillé aussi à cette écriture du spectacle. Un spectacle où, eh bien, pendant plusieurs mois, on a écouté, partagé avec des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans sur les crises et surtout leur vision des sorties de crise. Et la compagnie SketchUp, derrière, a écrit tout en partageant et continuant de partager avec ces jeunes qui ont cheminer avec nous, eh bien, ce spectacle qui maintenant est invité à tourner, qui sait, passera-t-il un jour par ici. Et puis, enfin, je me permets surtout de relayer cette invitation de l'Église protestante unie en Île-de-France, la région parisienne, à vous, mais aussi à vos proches et présents qui sont étudiants ou jeunes. Il s'agit du culte de rentrée des jeunes de la région parisienne qui aura lieu dimanche prochain, le 13 octobre à 17h à l'espace protestant Marc Bugner, 27 rue de l'Annonciation dans le 16e arrondissement. J'ai quelques tracts là aussi si jamais eh bien, certains sont intéressés d'y aller ou de relayer l'information.
Alors, petite indication pratique. Lorsque vous allez sortir du temple pour vous rendre au repas paroissial, vous laisserez vos cantiques sur place. Cela permettra que vous ayez les mains libres pour vous rendre au comptoir librairie et acheter le livre sur les temples réformés et les églises luthériennes. Je m'adresse tout particulièrement aux parents ou aux grands-parents de catéchumènes parce que c'est un ouvrage qui serait très précieux pour compléter leur formation personnelle, à la fois parce qu'il y a des éléments historiques sur le protestantisme parisien et puis parce que le panorama des 25 temples réformés et luthériens de Paris donne une idée de la manière dont les protestants ont traduit leur foi, ont traduit leur théologie dans l'espace cultuel, pour le dire avec le terme technique, dans les temples. Comment les temples parlent-ils de notre foi ? Eh bien, ça c'est un bon complément, d'autant que nous n'aurons pas l'occasion de visiter d'autres temples cette année. Cet après-midi, nous irons à Saint-Eustache avec les catéchumènes de 3e et 4e année, mais les temples protestants, autant les visiter avec ce livre qui est à votre disposition à la sortie du culte. Et puis, je me permets de vous dire que c'est maintenant le temps de l'offrande. Eh bien, là aussi, il s'agit de penser l'impensable d'une offrande extraordinaire, surnaturelle, par la foi.
Toi le premier, tu nous respectes. Toi dont le nom est inconnu et imprononçable, toi que nous nommons selon le nom que nos traditions diverses nous ont enseigné, nous te prions. Apprends-nous à respecter ton nom. Et pour ce faire, que nous sachions nous accueillir dans nos différences. Que rien ne nous décourage dans notre recherche pour rencontrer les autres, celles et ceux qui, à travers le monde entier, sont tous tes enfants bien-aimés. Tu es tellement plein de sollicitude pour chacune et chacun que déjà nous manquerions de respect envers toi si par malheur nous en venions à nous exclure les uns les autres. Fais-nous comprendre que lorsque, sous prétexte d'honorer ton nom, nous excluons l'autre qui ne te prie pas comme nous-mêmes, déjà nous défigurons en nous ton adorable présence et nous mettons la division dans notre monde. Or en toi, il ne peut y avoir de division. Nos divisions ne viennent pas de toi. Elles ne peuvent d'aucune manière trouver en toi leur justification. Toi qui es magnifique, adorable, grand comme nous ne pouvons même pas le concevoir, tu es du même mouvement, le trait humble, pur de toute volonté de mainmise sur qui que ce soit. Nous avons appris, souvent dès le berceau, à te respecter. Peut-être avons-nous encore à apprendre que toi le premier, tu nous respectes infiniment. Ô toi qui nous crée et nous recrée sans cesse dans la lumière, dans la justice et dans l'amour, apprends-nous que pour te plaire, nous n'avons pas à nous substituer à toi en agissant autrement que toi. Fais-nous la grâce de considérer toutes nos différences comme autant de facettes de ton être, et qu'ainsi nous soyons quelque chose de ta bonne présence en ce monde que nous te confions, dans ses joies comme dans ses peines, ce monde où nous voudrions que tu guides plus souvent ceux qui le dirigent, qu'ils puissent se mettre à l'écoute de ce feu brûlant mais non dévorant qu'est ta parole. Nous te confions enfin ce monde où des jeunes s'engagent, mais aussi parfois cherchent difficilement leur voie. Qu'eux aussi puissent trouver en toi un soutien et un appui, tout comme ceux qui traversent l'épreuve de la maladie ou de la solitude. Et tous ensemble, nous nous levons pour te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Chers amis, Dieu nous envoie dans le monde pour être les témoins de son espérance par nos actes et nos paroles. Et à toutes les bonnes et les mauvaises excuses que nous inventons pour ne pas vivre l'Évangile, il répond simplement: « Va, je suis avec toi. » Que le Dieu de Moïse et de Jésus-Christ nous bénisse et nous garde. Il connaît notre vie, il entend notre cri, il nous offre la bonne nouvelle, l'Évangile, et nous appelle à la liberté, nourrie de sa présence. Amen.